Bonjour à tous. J'ai terminé la séance précédente en parlant de la résurrection. Auparavant, j'avais parlé de la mort de Jésus. Vous avez dû trouver à l'entrée de cette salle le fameux poème de Peggy que j'avais lu. J'ai terminé donc en évoquant le sens de la résurrection du Christ. Je terminais, si vous vous rappelez, par une réflexion sur le sens même de l'éternité. Qu'est-ce qu'on dit quand le Christ entre dans l'éternité, retrouve l'éternité? J'attire l'attention sur le fait que nous avons spontanément une conception différente de l'éternité. L'éternité, pour nous, c'est ce qui s'oppose au temps, parce que le temps passe. Les instants se succèdent, à peine ai-je fait quelque chose que ce que j'ai fait est déjà du passé. Nous sommes toujours, comme le méditait profondément saint Augustin jadis, nous sommes toujours renvoyés inéluctablement d'un moment du temps à un autre. Le présent ne peut jamais être saisi au fond, puisque à peine est-il saisi qu'il devient du passé. Et nous sommes toujours en route vers un avenir, passé, présent, avenir. Et ces moments du temps, non seulement ils se succèdent, mais justement parce qu'ils se succèdent, ils ne peuvent jamais être rassemblés ensemble. Ils ne peuvent jamais être tenus ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour l'être humain, coïncidence entre lui-même et ce qu'il a été hier ou avant-hier ou il y a 3 ans ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y a quand même une forme de coïncidence parce que c'est toujours le même être humain qui est né, qui a vécu, même si son physique a changé, mais donc il y a bien une identité profonde de cet être humain. Mais cet être humain éprouve l'impossibilité de tenir dans un unique instant la diversité des moments, des meilleurs moments qui constituent ou qui auront constitué sa vie. Alors, il y a bien, parfois on dit, on connaît des moments d'éternité. On éprouve comme un instant d'une rare plénitude. Et j'avais lu un extrait de Marcel Proust, la semaine dernière, qui disait quelque chose de cela. Mais justement, ce qu'on appelle ces moments d'éternité, ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Parce que le temps continue à s'écouler. Alors ceci nous aide, par contraste, à nous ouvrir à une certaine compréhension de ce qu'est la résurrection du Christ. Nous disons, la confession de foi chrétienne, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous parlons de résurrection de la chair. Ressuscité pour le Christ, ça veut dire que malgré l'interruption de la mort, et par-delà cette interruption, le Christ se retrouve identiquement celui qu'il était jusqu'à sa mort. Il est le même. Il est le même avec une différence, bien sûr. La différence, c'est que son corps de ressuscité, n'est plus soumis à l'échéance de la mort. Là est la différence essentielle. Le Christ, élevé à la droite de son Père, le Christ ne meurt plus. La différence fondamentale est là. Mais il n'en est pas moins, lui-même, comme vivant, le même que celui que les apôtres ont connu sur les routes de Palestine. Il y a une discontinuité, mais il y a une unité, une identité profonde du Christ. L'éternité du Christ ressuscité, elle a pour signe précisément le fait que le Christ puisse se faire confesser, qu'il puisse être reconnu par les apôtres comme étant identiquement celui qui s'adressait à eux avant Pâques. Alors, cette condition nouvelle dans laquelle le Christ se trouve introduit par sa résurrection, le fait que désormais il ne soit plus soumis à une existence vouée à la mort, ce fait n'empêche pas que le Christ puisse réapparaître aux disciples ou aux femmes, au tombeau, etc. Ça n'empêche pas qu'il puisse réapparaître à ses témoins, hein, avec le corps même qu'il avait avant sa mort. Hein. C'est ça le sens des résurrections. Voilà. Et de façon très réaliste hein, chez Luc, hein, puisque dans l'une des scènes d'apparition, on voit Jésus dire, enfin demander à manger, on a ça aussi au chapitre 21 de l'évangile de Jean, « Avez-vous du pain, des poissons, etc. » Voilà. Donc, le sens des réapparitions, hein, c'est précisément une confirmation fondamentale qui est donnée aux femmes et aux premiers témoins du ressuscité, une confirmation fondamentale qui leur est donnée, celui qui est vivant par-delà la mort, c'est bien celui que vous avez connu. Voilà. Le Christ ressuscité garde cette possibilité de se manifester à ceux qui l'ont connu. Dans l'évangile de Luc, ça dure 40 jours hein, jusqu'au temps de l'ascension. Bon, dans l'évangile de Jean, la présentation des choses est différente. L'évangile de Jean contracte davantage des choses. Bon. Mais il y a toujours cette tradition relative aux apparitions dans chacun des quatre évangiles. Il faut bien comprendre que les apparitions du ressuscité appartiennent seulement à une phase. C'est une phase de la manifestation du ressuscité. Avec l'ascension, le Christ cesse de se manifester à ceux qui l'ont connu, qui d'ailleurs disparaîtront peu à peu, pour être totalement à la droite de son Père, comme dit le Credo. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne continuera pas à se manifester dans l'histoire, mais désormais, il se manifestera dans l'histoire autrement, à savoir par l'Esprit, l'Esprit de Pentecôte. Voilà. Alors, j'ajoute un dernier mot, vous voyez, c'est une sorte de reprise hein, que je fais, de ce que j'avais dit peut-être un petit peu vite à la fin de la séance précédente. J'ajoute que si on parle de résurrection de la chair, hein, ça veut dire que c'est pas simplement une immortalité de l'âme, hein, c'est pas simplement l'âme du Christ qui se trouve emportée auprès du Père. Non, c'est l'intégrité de sa personne, ce qu'on appelle une personne humaine. Autrement dit, l'assomption de la nature humaine pour le Christ, hein, le fait qu'il était homme, ce n'est pas une simple parenthèse pour lui. Le Christ retrouve la gloire qu'il avait auprès de son Père, comme dit l'évangile de Jean. Mais il la retrouve autrement, puisque désormais, il la retrouve comme quelqu'un qui a connu l'expérience d'être homme. La condition humaine n'aura pas été une simple parenthèse. Voilà, c'est cette assomption de l'humanité dans la gloire du ressuscité, sous un mode que nous ne pouvons évidemment pas imaginer, bien sûr, hein, mais c'est le sens profond de ce qu'on appelle la résurrection de la chair, hein, qui n'est pas, encore une fois, simplement comparable à l'immortalité de l'âme que les Grecs, Platon en particulier, espéraient. Ça ne veut pas dire que ça contredise l'immortalité de l'âme, hein, mais résurrection de la chair, ça va plus loin qu'immortalité de l'âme. Hein, c'est vraiment l'intégrité de la personne qui vit de nouveau pleinement auprès du Père. Voilà. Et c'est très important, évidemment, pour l'interprétation de l'espérance eschatologique des chrétiens, puisque la résurrection à laquelle nous sommes appelés, d'après le Nouveau Testament, est elle-même une résurrection de la chair, comme l'a été précisément la première de toutes, celle du Christ. Alors, avant de poursuivre, je voulais simplement demander, enfin, s'il y avait, quand l'un ou l'autre point, essayer de préciser sur ces questions qui sont, des questions difficiles, hein, délicates, mais oui. Oui, il est le même et il est autre. Oui. Alors, ce que vous dites, ça, si vous voulez, ça fait écho à un petit développement que j'avais fait la dernière fois, où je soulignais que d'après les évangiles, la plupart du temps, les apparitions ne s'imposent pas d'une façon contraignante. C'est-à-dire qu'il y a quand même une démarche de foi. Il faut que Marie-Madeleine se retourne pour voir le ressuscité. Il faut qu'elle s'entende même appeler par son nom pour qu'elle le reconnaisse. Donc elle ne le reconnaît pas du premier coup. Oui, même et autre. Alors, nous allons avancer donc avec chapitre 9, pardon, chapitre, oui, c'est un 9, intitulé « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair ». Et en fait, ce sera un chapitre consacré à ces notions difficiles de préexistence et d'incarnation. Alors, pour introduire la réflexion, j'ai fait un petit schéma qui est évidemment faux. On ne peut pas représenter le mystère dont il s'agit, mais c'est une approximation, simplement, pour nous aider à entrer dans notre sujet. Vous voyez, j'ai essayé de récapituler, au fond, le point de départ qui était le nôtre. Hein. Nous sommes partis d'une réflexion sur le ministère public de Jésus et comment, à travers les 3 années de son ministère public, Jésus pouvait être déjà reconnu jusqu'à un certain point comme Christ et Messie et comme Fils de Dieu. C'est simplement une manière approximative hein, de figurer le mouvement de réflexion prodigieux dont témoigne déjà le Nouveau Testament lui-même. Alors, l'étape que je vous invite à franchir aujourd'hui, c'est l'étape qui va donc de la résurrection à l'origine, préexistence, et dans la mesure où on aura le temps, bien de commencer à entamer le processus inverse, si je puis dire, hein, c'est-à-dire comment le verbe s'est fait chair, quoi, l'incarnation. Alors, tout ce que je dis là, vous allez voir que ça s'appuie vraiment sur des textes hein, du Nouveau Testament, ce ne sont pas de pure spéculation, c'est quelque chose qui est inscrit dans le témoignage même du Nouveau Testament. Donc, premier versant de notre réflexion aujourd'hui, de la foi pascale à l'affirmation de la préexistence. Et dans ce cadre, je commence par une réflexion que j'intitule « Les effets de la résurrection ». L'autre jour, nous avons parlé du Christ ressuscité. Bon, maintenant, je voudrais ajouter que la résurrection du Christ, elle a un certain nombre d'effets qui sont très très bien repérables. Le premier effet, c'est ce que j'appelle la naissance d'un corps. La naissance d'un corps. Ce corps, c'est la communauté des témoins. Et plus largement, c'est la communauté de tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité. Les témoins et ceux qui ont reçu leur témoignage. La naissance d'un corps. Alors, vous voyez, c'est très beau parce que le corps de Christ est ressuscité et dans la mouvance, il va y avoir la naissance d'un corps. Bon, ce sera finalement le corps de l'Église. Mais l'Église, entendu au sens le plus large. Hein. Deuxième effet que l'on remarque, c'est pas deuxième chronologiquement d'ailleurs, hein, parce que tout ça, ça se passe en même temps, hein, et tout ça c'est lié. C'est ce que j'appelle le passage du kérigme au récit. Le kérigme d'abord, je l'avais dit, je crois, un moment, dans les semaines précédentes, la cellule initiale de la christologie, c'est cette confession de foi qui jaillit sur les lèvres des témoins, Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Christ, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le kérigme, hein, c'est la prédication originelle, le noyau essentiel de la première prédication chrétienne. Je vous renvoie ici à toutes ces formules qui font appel au terme de Seigneur, de Christ, dans les évangiles ou dans les actes des apôtres. Encore la formule, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Très tôt aussi, on voit apparaître un langage hyménique. C'est un autre effet de la résurrection. S'il est vrai que Jésus est ressuscité d'entre les morts, s'il est vrai qu'il est Christ et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le loue. On ne commence pas tout de suite par réfléchir sur la résurrection. Mais on s'adresse au Christ ressuscité comme Seigneur, comme Fils de Dieu. Un langage hymnique se développe. Et là encore, nous en avons de magnifiques expressions dans le Nouveau Testament. Pensez par exemple à l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Voilà, il s'est anéanti jusqu'à la mort sur la croix. Aussi, Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui dépasse tout nom, afin que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Voilà. C'est un hymne, hein, qui est inséré dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est une hymne, c'est un langage hymnique. Et on pourrait citer, bien sûr, d'autres formes, d'autres expressions du langage hymnique dans le Nouveau Testament. On voit aussi se développer, ça fait toujours partie des effets de la résurrection dans les temps qui ont suivi, on voit se développer ce qu'on appelle des titres christologiques. Voilà. Rappelez les titres christologiques, j'en avais parlé à propos des christologies africaines ces dernières décennies. Voilà. Bien, on constate que dans le Nouveau Testament même, à partir du moment où on confesse Jésus comme ressuscité, on voit se développer toute une série d'appellations, de noms, d'épithètes qui lui sont attribués. Pendant le ministère public de Jésus, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Nous les avons passés en revue. Hein. Fils de David, prophète, Christ, fils de Dieu, pas beaucoup d'autres. Hein. Fils de l'homme, bien sûr. À partir de la résurrection, alors c'est une vraie floraison d'épithètes attribuées au Christ. Comme par exemple le pasteur, l'époux et bien d'autres. Et puis, autre effet de la résurrection encore, une lecture nouvelle de l'histoire antérieure. C'est-à-dire qu'à partir de cet événement inouï qu'est la résurrection du Christ, les premiers chrétiens se remettent à lire les Écritures, c'est-à-dire pour eux les Écritures juives. À cette époque, il n'y a pas encore ce que nous appelons les Écrits du Nouveau Testament. Quand les premiers chrétiens disent les Écritures, ça correspond en gros à ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et donc, il y a un mouvement qui s'opère de relecture de ces Écritures juives à la lumière de l'événement de la résurrection du Christ. Voilà. Cela s'opère sur le fondement même de ce que révélait l'Évangile de la résurrection. Rappelons-nous par exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 27, C'est dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, le Christ lui-même, le Christ ressuscité, d'après ce texte, a indiqué aux deux disciples sur la route d'Emmaüs comment ils pouvaient, donc, devaient relire les Écritures à la lumière de ce qui venait de se produire. L'importance de cette relecture des Écritures anciennes ressort bien d'un passage qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, un passage qui est lui-même en forme hymnique d'ailleurs. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Képhas, puis aux douze. Ce qui est frappant, c'est la répétition de ces quelques mots selon les Écritures. Donc, le Christ est mort pour nos péchés, et au fond, on découvre que les Écritures en parlaient déjà, même si on s'en était pas aperçu. Et on se remet à lire le psaume 21, les chants du serviteur souffrant, à la lumière de l'événement qui vient de se produire. De même, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bon, c'est un événement nouveau, mais sur le fondement des paroles du Christ ressuscité, les apôtres, plus largement les premiers chrétiens, se mettent à relire les Écritures et découvrent comment la résurrection elle-même se trouvait prédite mais de façon voilée, de façon obscure. Mais maintenant, il est possible de passer de l'obscurité à la lumière à cause de l'événement de la résurrection qui vient de se produire. Et puis, dernière étape dans cette réflexion sur les effets de la résurrection, eh bien, c'est le passage du témoignage oral au témoignage écrit. En effet, les années passent après la résurrection, et la première génération, bien sûr, va quitter ce monde. Les premiers chrétiens vont mourir. Et donc, avant que cela ne soit arrivé, il réalise qu'il est nécessaire d'écrire, parce que l'écrit, c'est ce qui va permettre de transmettre aux générations qui suivent. Donc on ne peut pas s'en tenir au témoignage oral, il faut le mettre par écrit. Alors c'est Paul qui écrit le premier, Paul écrit un certain nombre de lettres, pas tout de suite après la résurrection du Christ, hein, puisque Saul n'était pas encore Paul, il a fallu la conversion sur le chemin de Damas, hein. Mais au bout de quelques années, Paul commence à écrire des lettres. Et puis, on se rend compte que ça ne suffit pas. Il faut aussi raconter pour les générations suivantes ce qui s'est passé. Et on en vient ainsi à écrire ce que nous appelons les évangiles. Alors, on sait aujourd'hui que ce qui a été écrit en premier lieu, ce sont certainement les récits concernant la passion et la résurrection. Voilà. Et puis, progressivement, on a ajouté, ce qui concerne le ministère public de Jésus, et puis, en amont, donc, ce qui concerne l'enfance de Jésus, enfin, les évangiles de l'enfance. On a recueilli ce que les gens savaient, les traditions, etc., et puis ça a été mis en forme écrite, donc ça a donné nos 4 évangiles, et puis aussi d'autres écrits, bien sûr, dans le Nouveau Testament, mais pour l'essentiel, je voulais surtout insister sur ce passage à un corpus d'écrits qui témoignent non seulement de l'événement de la résurrection, mais de ce qui a précédé. L'événement de la résurrection, ou l'événement pascal, permettant de relire ce qui s'est passé depuis les commencements de la vie de Jésus. Et allant même au-delà, allant donc en direction de ce qu'on appelait par la suite la préexistence, jusqu'à atteindre l'éternité du Verbe de Dieu au commencement. Donc, il fallait commencer par identifier ces effets extrêmement importants de la résurrection. Alors, le mouvement d'écriture à partir de l'événement de la résurrection, il ne s'en tient pas au récit de la passion et de la résurrection, mais il raconte aussi le ministère public de Jésus. On met ça par écrit. Je n'y reviens pas puisque nous en avons parlé, hein, c'était le premier chapitre de la troisième partie de ce cours. Je n'y reviens pas, si ce n'est pour attirer l'attention sur le fait qu'en relisant ainsi le ministère public de Jésus jusqu'à sa mort, les évangélistes ne font pas que rapporter des faits bruts, mais ils les relisent précisément à la lumière de ce qui vient de se passer. On en a un exemple avec l'épisode de Jésus marchant sur les eaux. Les exégètes ont bien montré que cet épisode, en fait, il est construit exactement comme le visite, comme le récit de la visite des femmes au tombeau. Voilà. Les femmes qui ont peur, et puis il leur est dit « n'ayez pas peur », et puis finalement, le Christ se manifeste. Et donc, on rapporte bien sûr ce qui s'est passé, mais dans la manière de raconter ce qui s'est passé, on projette aussi des allusions au mystère pascal, à la résurrection. Ou encore, dans les récits de guérison, quand les évangélistes rapportent une parole de Jésus disant à un malade « Sois levé, lève-toi », eh bien évidemment, ce mot, ce verbe devient chargé de tout le sens qu'ils reconnaissent désormais à la résurrection, puisque c'est le même mot. Donc je n'en dis pas plus sur le ministère public, puisqu'on en a parlé longuement, mais je vais plus loin, en amont du ministère public, et ça me conduit à faire un arrêt sur les évangiles de l'enfance. Sur les évangiles de l'enfance et plus précisément sur la tradition relative à la naissance virginale. Je ne dis rien, je fais des choix. Enfin, on pourrait bien sûr parler de Jésus à 12 ans au temple de Jérusalem, mais je viens tout de suite à la naissance de Jésus parce que c'est évidemment le point le plus délicat, le plus difficile à interpréter avec cette tradition relative à la naissance virginale. Cette naissance virginale de Jésus est attestée, comme vous le savez, explicitement par deux évangélistes, l'évangéliste Matthieu, chapitre 1, et l'évangéliste Luc, également, chapitre 1. Ces deux textes, Matthieu et Luc, sont les sources scripturaires essentiel hein, de cette tradition selon laquelle le Christ a été conçu de l'Esprit-Saint et né de la Vierge Marie. Rappelons-nous l'épisode de l'Annonciation. On pourrait aussi mentionner ici une allusion discrète, mais réelle quand même, dans un autre passage de l'Évangile de Luc, l'Évangile de Luc au chapitre 3, verset 23, où il est dit, à propos de Jésus, « Il était, croyait-on, fils de Joseph. » Il était, croyait-on, fils de Joseph. On sent bien que l'évangéliste Luc prend distance par rapport à ce qu'on dit de Jésus. On croyait qu'il était fils de Joseph, mais Luc, précédemment, a rappelé que les choses sont plus complexes. Voilà. Puisqu'il a rapporté, justement, la tradition de naissance virginale. Alors, je m'arrête un peu sur cette question de la naissance virginale, parce que c'est une question qui, déjà dans l'Antiquité, et plus récemment à l'époque moderne, au XXe siècle, début XXIe siècle, c'est une affirmation qui rencontre encore des difficultés ou des objections. Déjà dans l'Antiquité, il y avait des objections qui étaient formulées par les juifs comme par les païens. Bon, les Juifs disaient, bon, la naissance virginale que vous attribuez à Jésus, c'est une légende mythologique, comme on en trouve beaucoup dans le monde païen. Quant aux païens, ils disaient, bon, vous vous parlez de la naissance virginale, mais nous, nous avons mieux dans nos mythologies, ou nous avons autre chose en tout cas. On trouve, hein, on a des textes qui témoignent de ce genre d'objection. Mais précisément, les pères de l'Église ont répondu à ces objections, et c'est quand même impressionnant de voir l'unanimité de leurs réponses. Tous les pères de l'Église, il n'y a pas d'exception, enfin, tous les pères de l'Église ont tenu à défendre, à justifier la tradition de la naissance virginale. Tous. Ils l'ont fait de façon plus ou moins juste, plus ou moins heureuse selon les cas, mais ils l'ont tous fait. Et leurs arguments sont de trois sortes. Premier argument, ils disent la naissance virginale de Jésus, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que ça signifie que le Fils de Dieu préexiste à sa naissance selon la chair. On a ça déjà chez Saint Justin, au deuxième siècle. Alors, il y a une autre signification qui est reconnue à la naissance virginale chez les pères de l'Église. La naissance virginale signifie que cette naissance de Jésus dans la chair est comme un recommencement de l'humanité. On trouve ça chez Saint Irénée, par exemple, à la fin du deuxième siècle. Hein, chez Saint Irénée, évêque de Lyon, on trouve cette réflexion. Irénée fait un parallèle entre Ève et Marie, ou bien, si vous voulez, un parallèle entre, d'un côté, Ève et Adam, et de l'autre côté, Marie et le Christ. Voilà. Et Irénée dit, cette tradition de la naissance virginale, elle est très cohérente avec la naissance d'Ève au commencement de l'humanité. À travers ça, ce qui est dit, c'est qu'il y a un recommencement, justement. Avec Jésus, il y a un recommencement. On n'est pas simplement dans la répétition de ce qui s'est passé depuis Adam et depuis le péché d'Adam, mais il y a une nouveauté, il y a un recommencement. Et puis, troisième argument que développent les pères de l'Église, c'est que la naissance virginale de Jésus préfigure notre baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà. Il dit cela, entre autres d'ailleurs, sur la base d'un verset du prologue de l'évangile de Jean, ceux qui ne sont pas nés de la chair. Voilà. Alors, ce sont les trois réflexions principales, disons, des pères de l'Église. Bon, il y en a d'autres qui sont moins heureuses, en particulier à partir d'une certaine époque. Bon, c'est difficile de situer, à partir du 4e siècle, 5e siècle, on a parfois l'impression, chez certains auteurs, il y a une sorte d'utilisation ou d'instrumentalisation de la tradition de la naissance virginale pour signifier la supériorité de la virginité ou du célibat par rapport au mariage. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous choque, hein, ce type d'argument. Mais encore une fois, ce n'est pas un argument qu'on trouve partout. Et l'important, c'est aujourd'hui faire abstraction de ce dernier argument, qui évidemment est quand même très ambigu, mais de retenir par contre les trois arguments précédents. Alors, à l'époque contemporaine, mais j'ai un point important quand même pour en rester à l'Antiquité. Hein. C'est que dans l'Antiquité chrétienne, cette tradition de la naissance virginale, bon, non seulement elle est attestée de façon tout à fait explicite par deux évangiles, mais elle est inscrite dans les symboles de foi. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui doit être pris en compte, hein. Que ce soit le symbole des apôtres ou le symbole qu'on appelle Nicée-Constantinople, vous avez cette affirmation conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge Marie. Alors, à l'époque moderne ou contemporaine, cette tradition relative à la naissance virginale a donné lieu à de nouvelles vagues d'objections. Les objections sont apparues en fait surtout à partir du XIXe siècle dans la théologie protestante. Mais elles ont été reprises aussi parfois plus récemment à l'intérieur même de la théologie catholique par certains auteurs. Alors quelles sont ces objections? Il me semble qu'il y en a fondamentalement trois qu'on peut distinguer. Il y a d'abord une objection qui a été formulée du point de vue exégétique. On a dit tout simplement la conception virginale, elle n'est guère mentionnée que par le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, elle est absente de Paul et probablement aussi absente de Jean. Bon, bien qu'il y ait eu une petite hésitation à propos du sens qu'il fallait donner à un passage précis du prologue joannique. Donc, il y a une première objection qui a été formulée, je dirais, plus du point de vue exégétique. Deuxième objection, deuxième série d'objections qui a été formulée, je dirais, c'est une objection qui procède de la culture moderne. C'est une objection qui n'était pas vraiment faite par les païens ou les juifs dans l'Antiquité, mais c'est une objection qui est faite, qui a été faite par certains théologiens, mais aussi par beaucoup de non-théologiens qui ont critiqué le christianisme à cause de cette tradition, une objection d'origine culturelle du côté de la culture moderne et qui peut se résumer ainsi. Il est difficile d'admettre un événement qui s'écarte pareillement des lois de la nature. Voilà. À vrai dire, la même objection a été faite à propos des miracles aussi. C'est difficile d'admettre, au nom de la culture moderne, au nom de la compréhension que nous avons de la science, etc., difficile d'admettre un événement qui déroge ainsi aux lois de la nature. Bon, on a aussi dit que cette tradition de la naissance virginale serait marquée par un certain mépris de la sexualité, en s'appuyant, si vous voulez, sur un certain nombre de textes patristiques qui, effectivement, malheureusement, je pense, poser un lien quoi, entre naissance virginale et exaltation de la virginité, un peu aux dépens du mariage. Puis une troisième série d'objections qui a été faite, qui est du point de vue proprement théologique, et qui est sans doute l'objection la plus difficile, il faut le reconnaître, l'affirmation de la naissance virginale ne risque-t-elle pas de mettre en cause la réalité même de Jésus comme vrai homme? Voilà. Ça, c'est l'objection, je crois, la plus fondamentale qu'on puisse entendre parfois. Jésus est-il vraiment homme s'il n'a pas eu de père humain? Voilà, pour le dire de façon simple. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai voulu quand même consacrer un développement à ces questions qui est difficile, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et à l'époque contemporaine, bien sûr, ce sont avant tout des incroyants qui ont développé les objections que je viens de dire, mais encore une fois, à la différence de l'Antiquité, ces objections ont été reprises par les théologiens eux-mêmes, par certains théologiens eux-mêmes, alors qu'à l'époque des Pères d'Église, non, il y avait unanimité pour défendre la tradition de la naissance virginale. Mais dans le cadre du protestantisme libéral au XIXe siècle, par exemple, mais plus récemment aussi, j'ai eu l'occasion l'autre jour de citer un théologien protestant allemand qui s'appelle Pannenberg, dans son esquisse d'une christologie, parue au début des années 1960, justement, il récusait quoi, cette tradition. Voilà. Puis, bon, il y a d'autres auteurs, j'avais fait allusion au début du cours à Frédéric Lenoir, dans son livre « Comment Jésus est devenu Dieu », là aussi, vous avez Jacques Duquesne, aussi dans son livre « Jésus », n'admettez pas. Donc, il y a toute une série d'objections qu'on peut regrouper, je crois, autour des trois thèmes que je viens d'évoquer. Alors, il ne faut pas en rester là, et il faut essayer d'approfondir, disons, les objections que l'on entend sur le sujet nous conduisent, peut-être nous provoquent plus que jamais à approfondir notre réflexion théologique sur ce qu'on entend par cette tradition relative à la naissance virginale. C'est ce que je voudrais faire en plusieurs points, en 5 points exactement, comme vous pouvez le voir sur la feuille du plan. Première étape de la réflexion que je voudrais proposer, ce serait de dire, quitte à différer une prise d'opposition sur le sujet même de la naissance virginale, premier point que je voudrais dire, c'est qu'il faut commencer par ne pas perdre de vue l'expression de saint Paul, Jésus est né d'une femme. Voilà. C'est une remarque toute simple que je fais ici, remarque banale, mais il ne faudrait pas que les débats autour de cette question de la naissance virginale empêchent d'entendre l'autre affirmation que nous héritons aussi du Nouveau Testament, qui est tout simplement l'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une femme. Affirmation qui n'est pas moins merveilleuse si on réalise que celui qui est né d'une femme n'est autre que le Fils de Dieu. Deuxième étape, et là maintenant nous allons venir directement à la question de la naissance virginale. Deuxième étape, c'est une réflexion sur le rapport entre le fait et le sens. Je ne reviens pas sur les questions exégétiques, parce que là quand même, je me rappelle ce que disait un jour le père Jacques Guillet, on peut très bien dire que en effet, il n'y a que deux attestations explicites de la naissance virginale, à savoir Matthieu et Luc, mais il ajoutait, mais il y en a précisément deux quand même, alors qu'il aurait pu ne pas y en avoir du tout. Enfin, donc, du point de vue exégétique, on ne peut pas tellement avancer là-dessus. Et alors, donc, deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est une réflexion sur le rapport entre le fait et le sens. Parce que, justement, l'une des objections qu'on entend, c'est l'objection suivant laquelle l'affirmation de la conception virginale a seulement un sens théologique et qu'il faut absolument éviter de lui reconnaître un contenu concret. C'est une, par exemple, ce que je viens de dire là, c'est une réflexion qui est développée par Hans Küng dans son livre « Être chrétien ». Il dit « Moi, je ne récuse pas la naissance virginale, simplement je dis « ça n'a pas pu se passer historiquement, biologiquement ». Par contre, je dis, prenons au sérieux le fait que ça soit dans les évangiles, mais c'est simplement une expression dont il faut retenir le sens théologique, le sens abstrait, si vous voulez. Hein, c'est la réflexion de Kuhn. Alors, par rapport à ça, je crois qu'on peut, émettre une objection en faisant valoir le lien qui doit exister, malgré tout, entre le fait et le sens. Et pour illustrer cela, je voudrais m'appuyer sur un passage d'un livre du père Bernard Cesbouë. Il dit ceci, vous avez le texte sous les yeux, « Soutenir que l'avènement du second Adam dans la chair ne peut pas se signifier aussi dans la sphère du biologique, c'est rétablir une dichotomie entre la nature humaine concrète et le don de Dieu en Jésus. C'est s'avancer sur la voie qui réduit la révélation chrétienne à une idéologie ou à une gnose. Nous sommes reconduits ici à la forme moderne de la tentation d'Ossète. Celle-ci n'entend évidemment pas nier la véritable humanité de Jésus, mais elle refuse que l'apparition de cette humanité puisse être marquée du signe que c'est Dieu qui se manifeste à nous. » Vous comprenez le raisonnement du père Cesbouë, c'est de dire, cette objection qui consiste à dire la naissance virginale doit être simplement entendue dans son sens et il ne faut lui reconnaître aucune réalité biologique, ben, Père Cesbouë dit, c'est une objection qui, au fond, revient à refuser que l'apparition de l'humanité du Christ puisse être marquée d'un signe, ce signe de la naissance virginale, qui signifie précisément que c'est Dieu qui se manifeste à nous. Voilà donc la réponse Bernard Cesbouë à cette objection que je viens d'évoquer, le lien, le rapport entre le fait et le sens. Alors, à partir de là, je voudrais faire une troisième considération. C'est que quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que la signification essentielle de la naissance virginale, c'est de dire la filiation divine de Jésus. Bon, le fait que Jésus soit né d'une femme, comme dit saint Paul, bien, ça signifie bien sûr son humanité, mais selon les évangiles, la naissance virginale renvoie à la filiation divine. Et sur ce point, je voudrais faire référence à un théologien protestant, grand théologien protestant, Karl Barth, qui, dans la première moitié du XXe siècle, prend vigoureusement position contre des protestants du protestantisme libéral qui refusent la tradition de naissance virginale. Et Barth raisonne à la faveur d'une analogie avec la résurrection. Voilà. Comme vous allez le voir, je lis le texte. Certes, le dogme de la naissance virginale n'est que l'indication et donc la forme du mystère de la révélation. En ce sens, on peut dire également que le témoignage de Pâques, dans la mesure où il porte sur le tombeau vide, ne fait qu'indiquer le mystère, ou plutôt la révélation du mystère. Christ est ressuscité, en renvoyant à un fait extérieur. Personne ne soutiendra que ce fait extérieur, du tombeau vide, possède en soi le pouvoir de révéler aux disciples de Jésus le mystère de la présence de Dieu en Christ. Toutefois, ce mystère s'est-il révélé à eux autrement qu'à travers le fait extérieur du tombeau vide? Croit-on réellement à la résurrection du Seigneur en tant que révélation du mystère et de la souveraineté divine lorsqu'on a rejeté le récit du tombeau vide comme une forme inutile, quitte à s'attacher uniquement au contenu, c'est-à-dire à la résurrection? Le contenu spécifique du message de Pâques ne va-t-il pas nécessairement avec cette forme? Il est vrai que le signe et la chose, l'extérieur et l'intérieur, sont toujours rigoureusement distingués dans la Bible, et nous ne manquons pas de le souligner par la suite. Mais jamais ils ne sont séparés, au point qu'on puisse, à son gré, accepter l'un et rejeter l'autre. Et le raisonnement analogique de Karl Barth. Il dit, bon, si vous raisonnez comme ça pour la naissance virginale, alors comment vous faites pour la résurrection? Vous allez dire, bon, le tombeau vide, c'est simplement, ça n'a aucune historicité, ça veut dire que c'est simplement le signe de ce que le Christ est ressuscité. Mais est-ce que vous pouvez vraiment détacher l'annonce de la résurrection de l'attention portée au signe de cette résurrection, un signe négatif en l'occurrence, un signe en creux, à savoir que le tombeau est vide? Et Barth raisonne de la façon analogue, hein, à propos de la naissance virginale. Pas si facilement, ça rejoint au fond, en quelque sorte, l'argument de Bernard Sesbury, on ne peut pas si facilement que ça opérer une scission entre le fait et la signification, pour retenir uniquement la signification en se débarrassant du fait tel qu'il est pourtant attesté par les évangiles. Quatrième étape de cette réflexion, reste malgré tout le problème du comment. L'objection peut très bien renaître sous cette forme, comment la naissance virginale a-t-elle pu se produire? J'ai rappelé la difficulté culturelle que ça pose aujourd'hui. Il me semble que face à cette objection, ce qui est important, c'est de retrouver la problématique évangélique de la naissance virginale. Comment cela peut-il se faire? Rappelons-nous que c'était déjà la question de Marie. C'était déjà la question de Marie elle-même. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? La réponse qui est apportée à Marie, dans le récit de l'Annonciation, « L'Esprit-Saint viendra sur toi » et la présence du Très-Haut te couvrira de son ombre, cette réponse n'apporte aucune information concrète sur la manière dont les choses se passeront. Ce qui est dit par contre, c'est que l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre, là même où humainement on est dans l'ordre de l'impossible. Voilà, me semble-t-il, la problématique évangélique. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dès lors, toute interrogation qui buterait sur le comment de la naissance virginale, soit pour montrer comment on peut la comprendre biologiquement, soit au contraire pour dire qu'elle est inconcevable et donc inacceptable, mais toute interrogation de ce type, qui se focaliserait sur le comment de la naissance virginale, ne respecterait pas la problématique évangélique du récit relatif à la naissance virginale. Car l'Évangile, certes, pose la question du comment, avec la parole de Marie, comment cela se fera-t-il, mais l'Évangile ne reste pas à cette question, et il attire bien plutôt l'attention sur l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir comme franchissement d'une limite. Marie ne pose pas une seconde fois la question qu'elle a posée, comment cela se fera-t-il ? Mais, par contre, elle accueille dans la foi la parole qui lui est dite. Elle croit que l'impossible va arriver, selon cette parole qui lui a été adressée par l'ange. Et donc, si on se contentait de dire « la naissance virginale, c'est simplement une manière de parler », eh bien, on évacuerait finalement le ressort même du récit évangélique. On évacuerait la force du paradoxe dont témoigne le texte évangélique lui-même, à savoir qu'il va se produire dans l'histoire un événement qui est une intervention de Dieu. Une intervention de Dieu qui ne peut pas être purement engendrée par l'histoire antérieure, une intervention de Dieu qui n'est possible que moyennant une certaine discontinuité par rapport à cette histoire antérieure. Voilà, quand on dit cela, je crois qu'on est beaucoup plus près du sens évangélique de la tradition relative à la naissance virginale. Ce qui nous conduit à une dernière étape dans cette réflexion. Le sens profond de cette tradition relative à la naissance virginale, c'est d'affirmer l'engendrement humain de l'éternel engendré. C'est la formule que je propose pour ma part, l'engendrement humain de l'éternel engendré. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que la portée de cette tradition, c'est que l'humanité de Jésus a quelque chose d'unique parce qu'elle est l'humanité du Fils unique de Dieu. Autrement dit, la tradition de la naissance virginale n'est pas d'abord une affirmation mariologique, elle est d'abord, en dépit des apparences, une affirmation christologique. Le centre, c'est cela. L'humanité de Jésus est une humanité unique parce qu'elle est celle du Fils unique de Dieu, c'est-à-dire, elle est l'humanité de celui qui n'a pas son origine première dans la série des générations humaines qui l'ont précédée, elle est l'humanité de celui qui a son origine première dans l'être même de Dieu, auquel il est présent de toute éternité. Alors bien sûr, Jésus prend place dans la série des générations, et c'est pourquoi il est présenté comme fils de Joseph, issu d'un peuple qui a toute une histoire. Mais Jésus est, dans cette série des générations, celui qui est antérieur à toute génération. Voilà. Le Fils de Dieu, devenu chair, s'insère dans cette série des générations, mais il est, dans cette série de générations, antérieur à toute génération. C'est un paradoxe inouï, bien sûr, mais c'est un paradoxe avant tout christologique. Et donc, la naissance virginale ne signifie pas que Jésus n'ait pas eu une véritable humanité, mais elle signifie qu'il était unique parmi les hommes, en raison de son origine radicale. À la lumière de Pâques, Matthieu et Luc ont pu voir dans la naissance virginale de Jésus le signe, précisément, le signe de ce que le ressuscité n'avait pas été simplement adopté par Dieu à une certaine étape de sa vie terrestre, par exemple au moment du baptême, mais qu'il était lui-même quelqu'un qui venait de Dieu. On prend l'expression de Joseph Moins, l'homme qui venait de Dieu. Si Jésus est Seigneur, si Jésus est le Fils unique de Dieu, alors sa naissance ne peut pas être un commencement absolu. Sa naissance, c'est la naissance de celui qui était déjà, avant sa venue dans la chair, le Fils bien-aimé du Père. J'ajoute un tout petit mot pour finir, c'est que cette affirmation que je viens de développer, elle a une portée inouïe pour nous-mêmes, hein, puisque elle signifie en même temps que l'humanité n'est pas simplement une condition qui se transmet de génération en génération depuis l'homme de Néandertal, mais en Jésus-Christ, l'humanité a son origine en Dieu même. Autrement dit, l'humanité de Jésus, c'est l'humanité de celui-là même qui était auprès de Dieu avant que l'humanité ne fût. Oui ? Oui, ah ben c'est, là c'est le problème de la préexistence, hein, dont je parlerai tout à l'heure. Hein. C'est exactement ça. Voilà, donc si vous voulez, je termine, on va faire la pause maintenant, je termine sur ce point, enfin sauf si vous avez des questions, d'autres questions que celle-là, puisque je vais y répondre après la pause. Enfin, si vous voulez, je termine simplement d'un mot, voilà, l'humanité de Jésus, c'est l'humanité de celui qui était auprès de Dieu avant même que l'humanité ne fût. Je crois que c'est important de bien entendre la formule que je viens d'employer. Hein. Je ne dis pas l'humanité de Jésus était auprès de Dieu avant que l'humanité, aux origines, je ne dis pas ça. Hein. Je dis l'humanité de Jésus, c'est l'humanité de celui qui était auprès de Dieu avant que l'humanité ne fût. Mais avant que l'humanité ne fût, le Fils de Dieu n'était pas homme, évidemment. Mais il était néanmoins. Ce que dira finalement le prologue, le début du prologue de l'évangile de Jean. Hein, au commencement était le Verbe. Voilà. Bon, c'est une deux questions, ou alors on fait la pause maintenant, puis je répondrai à vos questions après la pause. On peut faire comme ça plutôt. Hein. Faisons la pause maintenant. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, j'apporte encore une précision, si vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démarche de la théologie chrétienne consiste toujours à essayer de comprendre le sens de ce qui est transmis, hein, ce que j'appelle la tradition, son stage, ce qui est transmis. Voilà. De soi, on peut toujours dire, mais est-ce que Jésus-Christ n'aurait pas pu se manifester comme étant vraiment le Fils de Dieu, sans qu'il y ait la naissance virginale? C'est des choses qu'on entend, de fait. Mais en soi, pourquoi pas? J'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse. Mais la question est posée. Mais c'est pas la démarche de la théologie. La démarche théologie, c'est de dire, puisque, en fait, cela nous est transmis. Voilà. Alors, comment le comprendre? Voilà. Et donc, les quelques réflexions que j'ai proposées avant la pause sont simplement des tentatives, hein, pour, avec Bernard Sesbouet, avec Karl Barth et d'autres, pour essayer de nous éclairer sur le sens que nous reconnaissons à ce qui nous vient ainsi de l'Écriture, voilà, et qui est transmis par les symboles de foi. Voilà, je ne sais pas si sur ce sujet il y a une question. Il faut être complètement critique, hein, par rapport à ces associations qui sont faites, ou qui ont été faites parfois, y compris à l'époque des Pères de l'Église, entre naissance virginale et exaltation de la virginité. Ce n'est pas du tout le sens. Enfin, j'espère l'avoir bien. Hein, il faut plutôt accéder au sens profond de ce qui est transmis par les évangiles. Et qui nous introduit directement donc, au développement suivant sur la préexistence. Parce que moi, j'aime bien dire que bon, la naissance virginale paraît inouïe, mais que le premier verset de l'évangile de Jean est encore plus inouï, hein, puisque il nous dit « au commencement était le Verbe ». Au commencement était le Verbe. Donc l'évangile de Jean, dans son prologue, il ne s'arrête pas au commencement de la vie de Jésus. Hein, il va tellement loin qu'en amont, qu'il contemple le Verbe de Dieu dans son éternité. Alors ça nous conduit donc à réfléchir sur le Fils préexistant. Donc là, j'en viens à la question que vous posiez tout à l'heure. Et voyez que je n'intitule pas cette section « Jésus préexistant ». Je dis « le Fils préexistant ». Là, je crois qu'il faut être aussi rigoureux possible dans le langage. Parce que si Jésus est le nom d'un être humain, et c'est bien le cas, ça n'a aucun sens, ça n'aurait aucun sens de dire que Jésus préexiste à Jésus. Enfin, ou alors ce serait méconnaître la nouveauté de l'événement de sa naissance dans l'histoire du monde. Donc, que veut dire par contre, disons, qu'est-ce qui permet de fonder cette affirmation suivant laquelle le Fils ou le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, préexiste, voilà. Eh bien, on peut d'abord recueillir le témoignage de l'Écriture et des pères de l'Église. L'Écriture témoigne, en plusieurs passages, hein, de ce qu'on appelle, à partir du IIe siècle, la préexistence, à partir de Saint-Justin. Le mot préexistence n'y est pas, mais il y a des textes scripturaires qui ont déjà cette notion. J'en ai cité quelques-uns, qui sont parmi les principaux même, dans le Nouveau Testament. Il y a d'abord l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Tout fils qu'il était, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Donc, ça suppose bien qu'il préexistait comme fils. J'ai cité ensuite le début de l'Épître aux Éphésiens. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la création du monde, pour être saint, etc. Colossiens 1, versets 15 à 20, encore c'est une hymne, lui, il s'agit du Fils, hein, lui qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, toutes choses par lui ont été créées, et lui-même est avant toutes choses. Le mot préexistence n'y est pas, mais enfin, l'idée y est bien. Lui-même est avant toute chose. Et lui-même et toutes choses en lui ont leur consistance. Et puis l'hymne poursuit un peu après. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en lui-même toute la primauté. On pourrait citer encore d'autres textes, comme par exemple l'Épître aux Hébreux, versets 1 à 4, hein, qui... L'Épître aux Hébreux, qui applique au Christ des épithètes qui étaient appliquées à la sagesse dans l'Ancien Testament. Un resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Voilà. Et puis, alors, dans les évangiles eux-mêmes, on pourrait aussi invoquer un certain nombre de textes. Par exemple, Jean 6, 62. Quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Encore Jean 8, 57. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, c'est comme disait l'écrivain François Mauriac dans son livre sur Jésus, il disait étonnant cette formule qui rompt à ce point la concordance des temps. Ce qu'on appelle en grammaire française la concordance des temps. Dans le discours après la scène aussi, hein, Jean 13, 3, hein, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Voilà. Ou encore, bien sûr, au chapitre 17, la grande prière de Jésus, où on a ces mots, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Donc on ne peut pas dire que il n'y a pas des attestations diverses, plurielles, hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui la préexistence. Bien sûr, j'y ai déjà fait allusion plusieurs fois, le prologue de l'évangile de Jean, et notamment avec la formule « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ». On va aussi ajouter Jean 1, 18 « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître ». Donc, attestation dans les évangiles et plus largement dans le Nouveau Testament. On peut recueillir aussi le témoignage des pères de l'Église. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le mot lui-même, le mot préexistant, a été introduit par Saint Justin au IIe siècle. Je vous ai donné la phrase. Son fils, le seul qui soit appelé proprement fils, le Verbe préexistant avec lui et engendré avant la création, lorsque, au commencement, il fit et ordonna par lui toutes choses, est appelé Christ parce qu'il est oint et que Dieu a tout ordonné par lui. Donc, affirmation de cette doctrine, dès le IIe siècle. Je note au passage, c'est une manière au fond de revenir sur ce que nous avons vu dans la partie historique à propos de l'arianisme. Je note au passage que, précisément, la pointe de la doctrine d'Arius, c'était de refuser ce qu'on appelle la préexistence, puisque la formule privilégiée d'Arius, c'était « il y eut un moment où le Fils n'était pas ». Donc c'est une manière, alors non pas forcément de refuser la préexistence, mais en tout cas de l'atténuer. Voilà, il y a eu, parce que Arius reconnaissait en même temps qu'il y avait bien une certaine forme de préexistence du Fils, mais néanmoins, le Fils n'était pas éternel pour lui. Arius niait la génération éternelle du Verbe de Dieu. Et j'avais expliqué comment le Concile de Nicée avait répondu. Le Fils est engendré, non pas créé, en écho justement au prologue johannique. Un tout petit mot sur l'origine du concept de préexistence. On a parfois pensé que c'est un concept qui venait de courants gnostiques, le genre de courant auquel Saint-Irénée s'était opposé au IIe siècle. En réalité, on a pu établir que ce concept vient de la tradition juive antérieure au Nouveau Testament. Rappelez ici le passage du livre de Daniel, Daniel 7, 13. Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Et surtout, il faut rappeler les textes sur la sagesse personnifiée. Tout à l'heure, je fais allusion au livre de la sagesse, qui parle de la sagesse comme resplendissement de la gloire de Dieu, etc. Tout ça, précisément, va être appliqué au Christ, déjà dans l'Épître aux Hébreux. Mais il y a aussi d'autres textes, comme le texte célèbre du livre des Proverbes, chapitre 8, où c'est la sagesse qui est personnifiée et qui parle. Et elle dit, le Seigneur m'a fait comme commencement de ses voies, avant que les montagnes ne fussent, etc. J'étais. Bon, c'est un très beau texte, chapitre 8 des Proverbes, où la sagesse est présentée comme étant au minimum antérieure aux collines, aux montagnes, etc. On va aussi rappeler le chapitre 24 du Siracide, où également la sagesse est apparaît comme personnifié et comme étant doté d'une forme de préexistence. Alors, le plus difficile, bien sûr, c'est de comprendre le sens que l'on peut donner à cette notion de préexistence. Je commencerai par identifier une impasse possible, une aporie, comme disent les philosophes, une aporie possible, quand on réfléchit sur la préexistence. Je formule l'aporie ainsi. Dire que le Fils de Dieu préexistait à la création, donc dire que le Fils de Dieu préexistait au temps, si l'on s'en tient à la lettre, c'est raisonner comme s'il existait un temps antérieur au temps. Or, on dit que le temps a commencé. Vous voyez ? Donc, il y a un petit piège avec ce concept de préexistence. Comment comprendre ? En quel sens comprendre ? Que le Fils de Dieu est préexisté au temps, puisque par définition, employer le verbe imparfait préexister, ça suppose qu'on est dans l'ordre du temps. Or, en disant préexister au temps, on dit en même temps que le temps a commencé. Il y a une aporie philosophique qui montre tout simplement qu'il ne faut pas se méprendre sur l'usage du mot et qu'il faut essayer d'en découvrir par étapes, là encore, les significations fondamentales. Il est important, en fait, de distinguer deux sens de ce mot « préexistence ». Premier sens du mot, dire « le Fils de Dieu préexistait », cela veut dire « le Fils de Dieu existait déjà, sans nature humaine, bien sûr, dans l'histoire antérieure ». Alors, c'est très difficile à se représenter, hein, puisque justement, il n'était pas homme avant de naître comme homme. Et néanmoins, les textes du Nouveau Testament que j'ai cités disent bien que le Fils existait déjà durant les siècles de l'histoire antérieure. Parce que sinon, d'ailleurs, ça reviendrait à dire que la Trinité n'existait pas avant la naissance de Jésus. Enfin, vous voyez, on serait pris au piège. Très vite, on serait pris au piège. Alors, cette première signification du terme préexistence, au sens où le Fils de Dieu existait déjà, mystérieusement, alors même qu'il n'avait pas encore de nature humaine, il existait déjà dans l'histoire antérieure, c'est ce qui a été traduit souvent par les pères de l'Église à travers le thème des théophanies de l'Ancien Testament. L'exégèse spirituelle des pères de l'Église les porte souvent à relire certaines apparitions dans l'Ancien Testament, certains récits d'apparitions, dans ce sens-là. On en a vu un exemple avec Justin, quand il débattait avec le juif Tryphon à propos de l'apparition aux chênes de Mambré. Là où Justin disait, il y a trois personnages qui apparaissent mystérieusement, deux anges, d'accord, mais il y en a un, l'un des trois, c'est le Logos préexistant. C'est une exégèse spirituelle, qui ne va pas de soi aujourd'hui, dans ce cas précis, sans doute, mais elle dit en même temps quelque chose d'important, c'est qu'elle révèle la conviction qui était celle des pères de l'Église, selon laquelle, alors même que l'histoire humaine était déjà engagée, il y avait préexistence mystérieuse du Fils, qui cependant n'avait pas encore assumé la nature humaine. Ça, c'est un premier sens du mot préexistence. Et évidemment, on est dans le mystère, hein, parce que, encore une fois, c'est impossible de se représenter une préexistence du Fils sous un autre mode qu'une préexistence, à travers une nature humaine. On n'a pas la possibilité. Hein. Mais en même temps, la naissance de Jésus n'est pas un commencement absolu, au sens où celui qui est né un jour du temps, Jésus de Nazareth, n'est autre que l'incarnation la parole, du Verbe de Dieu, qui lui existait déjà dans les siècles antérieurs. Mais ce n'est qu'un premier sens du mot préexistence. Le mot a un deuxième sens. Préexistence, c'est aussi une manière de dire l'éternité du Fils. Et d'ailleurs, c'est par ce biais qu'on peut surmonter l'aporie par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Une manière de dire l'éternité du Fils. Je voudrais, au fond, ici, faire une réflexion tout à fait analogue à celle que je développais à la fin de la séance précédente. Comment penser l'identité du Christ par-delà la mort. Voilà. J'avais un petit développement sur l'éternité, comment comprendre l'éternité. Alors, ça joue ici de la même manière. Dire que le Fils est éternel, nous sommes spontanément tentés de comprendre cette expression dans un sens chronologique, en transposant, enfin, nous partons de l'existence du Christ, et puis, à partir de là, nous représentons une préexistence du Fils temporelle. Bon, ça, c'était le premier sens du mot. Le second sens du mot, c'est un sens qui se réfère davantage à la compréhension biblique de l'éternité. Voilà, de l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité n'est pas le contraire du temps, contrairement à la représentation que nous en avons couramment. Mais l'éternité, c'est le fait d'être identique à soi-même, malgré ou par-delà la différence des temps. Rappelons-nous ce que je disais l'autre jour sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fait d'être identique à soi-même, malgré ou par-delà la différence des temps. Alors, entendu de cette manière-là, la préexistence du Fils, c'est au fond un langage temporel et inadéquat pour dire l'éternité de Dieu, l'éternité du Fils. Alors, on pourrait dire, mais s'il est inadéquat, pourquoi l'utilise-t-on ? La réponse, il n'y a pas moyen de faire autrement. Enfin, je ne vois pas comment faire autrement. Si, on peut faire autrement, puisque le Nouveau Testament a recouru à des périphrases pour dire la même chose. Mais il ne faut pas être dupe du préfixe temporel « pré ». En un premier sens, préexistance peut bien être entendue selon ce registre temporel, au sens où, dans les siècles de l'histoire antérieure à la venue du Christ, le Fils préexistait déjà auprès du Père, et qu'il parlait, enfin, la parole de Dieu existait déjà. Voilà. Mais préexistence doit être aussi entendue dans un sens non temporel, au sens où simplement c'est une manière de dire l'éternité du Fils. Alors, à partir de là, si ces deux premières étapes sont franchies, et moi, il faudrait en fait faudrait plus de temps pour les fonder philosophiquement, bon, si ces deux premières étapes sont franchies, alors nous pouvons nous acheminer vers une approche, compréhension, si vous voulez, synthétique de ce qu'on entend par préexistence du Verbe de Dieu, préexistence du Logos. Si on associe, si vous voulez, les deux significations du mot préexistence, alors on est conduit à penser l'unité du Verbe de Dieu comme Verbe de Dieu et Verbe du monde. L'unité du Logos comme Logos de Dieu et Logos du monde. C'est assez difficile ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de l'expliquer aussi clairement que possible. Le point essentiel, c'est de comprendre que c'est le même Logos, pour parler grec, ou le même Verbe, qui était au commencement et qui est en relation avec le temps. Voilà, la proposition fondamentale. C'est le même Verbe de Dieu qui était au commencement et qui est en relation avec le temps. Donc c'est le même Verbe de Dieu qui participe de l'éternité de Dieu et qui en même temps est en relation avec l'histoire. La théologie joannique du Logos, dans le prologue de l'évangile de Jean, reconnaît précisément cette unité, puisque dans ce même prologue, nous avons d'abord la formule « au commencement était le Logos », par lui tout a été fait, et un peu plus loin, et le Logos est devenu chair. Mais c'est le même Logos, c'est le même Verbe de Dieu qui était au commencement auprès de Dieu et qui a été en relation avec l'histoire humaine au point même de devenir chair un jour du temps. Dans la tradition théologique, donc à l'époque des Pères de l'Église, il est possible de trouver des expressions de ce que j'appelle l'unité du Logos comme Logos de Dieu et Logos du monde. À mon avis, l'une des plus belles expressions, on la trouve chez Origène, dans un texte qui date de la première moitié du IIIe siècle, où Origène réfléchit sur la sagesse, mais conformément au Nouveau Testament, quand il dit la sagesse, il pense le Fils de Dieu. Il identifie la sagesse au Fils de Dieu. Et il dit ceci, vous avez le texte, Dieu le Père a toujours été. Il a toujours eu un Fils unique qui est en même temps appelé sagesse. Donc là, vous voyez, nous avons la préexistence. Le mot n'est pas employé, mais nous avons bien vraiment l'idée. Dieu a toujours eu un Fils unique qui est en même temps appelé sagesse. Dans cette sagesse, donc, qui était toujours avec le Père, la création était toujours présente et formée, et il n'y a jamais eu un instant où la préfiguration de ce qui allait advenir ne se soit pas trouvée dans la sagesse. Et de cette façon, peut-être sera-t-il clair que malgré notre faiblesse, nous avons sur Dieu des pensées conformes à la piété, sans prétendre que les créatures soient inengendrées et coéternelles à Dieu, et sans prétendre à l'inverse que Dieu, n'ayant rien fait de bien auparavant, en soit venu par la suite à faire du bien. Si tout, sans exception, a été fait dans la sagesse, puisque la sagesse a toujours existé, c'est dans leur préfiguration et leur préformation que toutes choses se trouvaient de tout temps dans la sagesse, avant qu'elles ne fussent aussi plus tard créées de façon substantielle. C'est un texte prodigieux, prodigieux, difficile, dense. On peut essayer de le comprendre de la manière suivante. Bon, première affirmation d'Origène, Dieu a toujours eu un Fils unique. Car pour Origène, c'est une évidence. Dieu, de toute éternité, est Père, Fils, Esprit. Mais il nous dit ceci, ce Fils, on peut l'appeler sagesse de Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise la sagesse dans l'Ancien Testament? C'est le fait que tout en étant la sagesse de Dieu, elle tient un rôle très important dans la genèse du monde. Rappelons-nous le texte de Proverbe 8 que je citais tout à l'heure. Le Seigneur m'a faite, c'est la sagesse qui parle, elle dit « Le Seigneur m'a faite ». Comme commencement de ses voies, et puis toute la suite du texte montre comment, en effet, la sagesse est dans une position un peu intermédiaire entre Dieu et le monde. Voilà. Jusqu'au dernier verset, où il est même dit, la sagesse dit même, « Je mettais mon plaisir à jouer parmi les enfants des hommes. Voilà. » Donc la sagesse dans l'Ancien Testament, à la fois, elle est liée à Dieu, liée à Dieu, elle est la sagesse de Dieu, et en même temps, elle est tournée vers le monde. Mais c'est la même sagesse. Alors, Origène applique cela au Fils, et il dit, donc, le Fils était de toute éternité présent auprès du Père, mais comment était-il présent auprès du Père? Il était présent auprès du Père comme la raison des choses à venir, comme le logos, justement, des choses à venir, la raison d'être des choses à venir. Et dans cette sagesse, qui était toujours avec le Père, la création était toujours présente et formée, et il n'y a jamais eu un instant où la préfiguration de ce qui allait advenir ne se soit pas trouvée dans la sagesse. C'est-à-dire que c'est abyssal, c'est un mystère abyssal. Dans son éternité même, Dieu conçoit, pense le monde à venir. Voilà. Et c'est justement le logos, la sagesse, qui, dans le mystère de Dieu, à la fois est tourné vers Dieu et qui est en même temps médiateur entre Dieu, le Père, et le monde. C'est, l'évangile de Jean le disait déjà. Au commencement était le Verbe, tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et peu après, et par lui, tout a été fait. Donc l'évangile de Jean le disait très bien. Dans son éternité même, le Fils était celui par qui toute chose serait faite. Comme disait saint Irénée, Dieu le Père a créé le monde par ses deux mains, le Verbe, et la sagesse, bon, parce que Irénée identifie la sagesse à l'esprit, enfin, le Fils et l'esprit. Voilà. Mais alors, Origène vient de dire ici quelque chose C'est très radical. C'est-à-dire que dans l'éternité de Dieu, il n'y a jamais eu d'instant où la préfiguration de ce qui allait advenir ne se soit pas trouvée dans la sagesse. La création était toujours présente et formée. Mais alors, il y a un risque énorme. C'est de laisser entendre que la création était éternelle. Or, la création a commencé. La création n'est pas éternelle. C'est pourquoi Origène, quelques lignes plus loin, c'est quatre lignes avant la fin de la page, prend soin de dire « Nous ne prétendons pas, évidemment, que les créatures soient coéternelles à Dieu. » On dit « Origène pense le Fils comme celui par qui toutes choses seront créées. » Là, le Fils est inséparablement tourné vers Dieu et tourné vers le monde à venir, et le monde dans lequel lui-même deviendra chair un jour du temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la création comme telle est éternelle. Et alors, on dira dans ce cas-là, à quoi bon souligner à ce point la préfiguration des choses à venir dans la sagesse éternelle présente auprès de Dieu ? C'est parce que si on ne le fait pas, on laisse entendre que Dieu jouissait tranquillement de son éternité et puis qu'un jour, arbitrairement, il aurait décidé de créer le monde. Ça ne va pas non plus. Donc vous voyez, d'un côté, il ne faut pas dire que les créations sont éternelles, coéternelles avec Dieu, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il n'y avait pas déjà dans l'éternité de Dieu le dessein du monde à venir, le désir du Dieu à venir. Alors, c'est le sens de ce texte que je viens de lire, là en bas de la page. Peut-être sera-t-il clair que, malgré notre faiblesse, parce qu'il se rend bien compte, Origène, que là, on est en présence de très très grands mystères. On fait comme on peut, on balbutie sur ces questions théologiques. Mais peut-être sera-t-il clair que, malgré notre faiblesse, nous avons sur Dieu des pensées conformes à la piété. Et là, deux extrêmes à éviter. Premièrement, sans prétendre pour autant que les créatures soient inengendrées et coéternelles à Dieu, mais sans prétendre non plus, à l'inverse, que Dieu, n'ayant rien fait de bien auparavant, en soit venu par la suite à faire du bien. Alors, à travers ça, c'est ce qui est en jeu, c'est ce que j'appelle l'unité du Logos ou l'unité du Fils, comme Logos de Dieu et comme Logos du monde. Vous avez peut-être remarqué, ce n'est pas un lapsus de ma part, dans ce sous-titre, l'unité du Logos comme Logos de Dieu et Logos du monde. Dans un cas, j'ai mis majuscule, Logos de Dieu. Dans l'autre cas, j'ai mis minuscule, Logos du monde. Justement, pour ne pas laisser entendre que le monde est coéternel à Dieu. Mais dire que le monde n'est pas coéternel à Dieu, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas en Dieu même de toute éternité le dessein ou le désir d'un monde à créer. Et de fait, par lui, tout a été fait. Oui ? Oui ? En plus, vous avez raison. En plus, ça introduirait une temporalité dans le fait. Oui, aussi pour cette raison. Origène met surtout l'accent sur le fait que ça impliquerait l'idée d'un changement d'avis dans l'éternité de Dieu, ce qui est impensable. Enfin, alors ça, c'est quelque chose qui a été fortement repris par Karl Rahner au XXe siècle, cette idée que certes, le monde est créé, donc le monde n'est pas éternel, et néanmoins, le monde, comme disait Karl Rahner, n'est pas le fruit d'un caprice divin, comme si Dieu, tout d'un coup, ait décidé de s'intéresser à un monde, de le créer, etc. Alors, c'est la préexistence du Fils, c'est ça. C'est d'une profondeur inouïe. On peut préférer d'autres notions, si on veut. Encore une fois, le Nouveau Testament ne connaissait pas le mot même de préexistence, mais il disait la même chose autrement. L'important, c'est de comprendre, quel que soit le mot, l'important, c'est de comprendre ce qui est en jeu, ce qui est d'une profondeur inouïe. C'est cette idée que que, au fond, dans l'éternité même de Dieu, le monde est déjà voulu, l'humanité est déjà voulue. Alors, j'ai pris un exemple chez un père de l'Église. On pourrait prendre aussi des exemples chez des auteurs de la tradition médiévale et aussi de l'époque contemporaine. Alors voici un exemple emprunté à un théologien contemporain, Jürgen Moltmann, dont je parlais beaucoup mardi dernier. Moltmann dit ceci, le langage est différent, hein, mais vous allez voir, fondamentalement, c'est la même vision des choses. Depuis l'éternité, Dieu n'a pas seulement voulu soi-même, mais aussi le monde. Vous voyez, il ne dit pas que le monde était créé toute éternité, ce qui n'aurait aucun sens. Mais il dit, voilà, Dieu n'a pas voulu soi-même seulement, mais il a voulu aussi le monde, car il n'a pas seulement voulu se communiquer à soi-même, mais aussi à son autre, c'est-à-dire à la création. Ce qui est autre que Dieu, la création, le monde créé. C'est pourquoi, déjà, dans l'amour du Père pour le Fils, l'idée du monde est contenue. Le Fils éternel de Dieu est en étroite relation avec l'idée divine du monde. Le Logos, par lequel le Père a tout créé, et sans lequel rien n'a été fait de ce qui est, n'est que l'autre aspect du Fils. Le Fils est Logos au regard du monde. Le Fils est présent à Dieu éternellement et il est en même temps inséparablement le Logos au regard du monde. Il est Logos au regard du monde, il est Fils au regard du Père. C'est une belle formule. Le même, inséparablement, il est éternellement le Fils du Père, le Fils auprès du Père, et il est le Logos, c'est-à-dire la raison d'être du monde à venir. Voilà. Du monde qui allait être créé et dans lequel lui-même deviendrait chair. Et Moltmann termine, le Père prononce la parole éternelle dans l'esprit et spire l'esprit, insuffle, inspire l'esprit dans l'expression éternelle de la parole. Alors, je donne un autre exemple, un autre théologien contemporain, Joseph Moin. Alors lui, il reprend une idée très, très, très semblable à travers la catégorie de projet. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du dessein. Dans l'éternité de Dieu, il y avait le dessein du monde à venir. Alors, Joseph Moin écrit, « En tant qu'il est l'avenir que Dieu tire de lui-même, de sa propre ressource d'être infini, l'avenir qu'il se donne à lui-même et qu'il prend en lui-même, ce projet n'est rien d'autre que Dieu-même. Il a une existence actuelle qui est l'acte éternel de Dieu d'exister en se projetant en avenir. Mais cet avenir de Dieu est aussi projet de création et d'adoption, donc projet de Dieu d'exister dans la différence, de se donner une existence différente hors de lui-même. À cet égard, l'existence du Christ en Dieu n'est pas actuelle, mais à venir. C'est sa prédestination à faire devenir enfant de Dieu ceux qui croiront en son nom. L'un dans l'autre, le Christ existe actuellement et éternellement en Dieu en tant qu'il est son Verbe, d'une existence qu'il est appelé à prendre dans le futur comme Verbe incarné, en tant qu'il est le Fils en qui Dieu appelle une multitude d'êtres à l'adoption filiale. Il existe actuellement en Dieu par la projection qu'il appelle à devenir différent et son existence future est la dimension d'avenir du projet subsistant en Dieu. Bon, texte, là aussi, difficile, hein, mais qui fondamentalement dit quelque chose de très proche de ce que nous avons eu précédemment, sauf que Joseph Moin introduit plutôt la notion de projet, c'est-à-dire Dieu de toute éternité, mais dans son éternité même, Dieu est projet, il a un projet, un monde à créer et un monde dans lequel Dieu deviendra chair. L'une des implications très importantes de ces considérations, qu'on les prenne chez Origène ou chez des théologiens contemporains, c'est de dire que du coup, l'incarnation du Fils de Dieu n'est pas simplement motivée par la nécessité de sauver l'homme écrasé sous le poids du péché, hein, comme on l'a souvent dit à la suite notamment des débats entre Augustin et Pélage. Bien sûr, le Fils de Dieu est venu assumer la condition humaine pour nous libérer, pour nous sauver. Mais dire cela n'épuise pas, en quelque sorte, les motifs de l'incarnation. Puisque le désir d'un monde et le désir d'une humanité habitent l'être de Dieu de toute éternité. C'est-à-dire que pour raisonner, si on veut raisonner de façon complètement abstraite, hein, certains théologiens au Moyen-Âge n'ont pas hésité à le faire. À la limite, si l'homme n'avait pas péché, voilà, Dieu serait cependant devenu homme lui-même. Enfin, ces théologiens n'ont pas hésité à dire ça. Dans la mesure où ce dessein du monde est inscrit dans l'éternité même de Dieu. Puisque concrètement Dieu est venu dans ce monde marqué par la faute, par le mal, par le péché, quelles qu'en soient les formes, le Fils de Dieu devenu homme apparaît comme celui qui fait les bons choix que Adam, d'après la Genèse, n'avait pas fait, justement. Adam s'était laissé séduire par la tentation, comme Adam et Ève, voilà. Jésus, comme homme, fait un autre choix. Voilà. Et sans cela, il est. Ah, bien sûr. Oui. Il est nouvel Adam au sens. Bien sûr. Il est nouvel Adam au sens où il ne renouvelle pas les fautes d'Adam. Mais où, dans son humanité même, il fait un choix différent de celui d'Adam. C'est en ce sens-là que c'est en effet un renouvellement de l'humanité. C'est ça que veut dire l'expression paulinienne. Pardon ? Le monde n'aurait pas pu continuer sans l'incarnation, c'est-à-dire que, disons, ce qui ressort de l'Écriture, c'est que Dieu seul pouvait sauver l'homme. Voilà, Oui, mais il ne faut pas non plus s'appuyer sur cette remarque pour, sous-estimer l'aspect proprement rédempteur. Hein, dans un monde marqué concrètement par la faute, par le mal, oui, le Christ est venu sauver l'homme. C'était nécessaire, nécessité de. Mais ce que je veux dire simplement, à la lumière de ce qui précède, c'est que cette motivation évidente, nécessaire de l'incarnation, n'épuise pas toutes les motivations de l'incarnation. Parce que l'homme compte pour Dieu de toute éternité. Le monde compte pour Dieu de toute éternité. Mais un monde qui souhaite justement non pécheur. Alors ça, c'était le sujet de mon cours l'an dernier, donc je viens en parler maintenant, mais c'est un peu long, hein. C'est quand même un... Oui, parce que là, ça nous emmènerait vraiment loin, je crois. Hein. Le péché, comme si vous voulez, en deux mots, comme refus du Créateur. Refus de s'accepter comme créature et vouloir mettre la main sur les choses divines au lieu de les recevoir de Dieu même. Enfin, je dis ça très vite, hein. Augustin appelle ça l'orgueil, mais... Alors, pour résumer tout ce que je viens de dire, une formule, si vous voulez, vous l'avez sous les yeux. Hein. Ainsi, le Père engendre éternellement le Fils. Donc, nous sommes bien au niveau du point alpha, si vous voulez. Hein. Le Père engendre éternellement le Fils, et le Fils ainsi engendré est lui-même principe du monde. Bon, on peut dire logos, on peut dire principe, on peut dire raison d'être, on peut dire projet. J'ajoute simplement une parenthèse, hein. Ça ne veut pas dire pour autant que le monde et l'histoire humaine s'imposent à Dieu comme une sorte de nécessité Parce que là aussi, ça serait une erreur. On pourrait en déduire, ah, mais ça veut dire Dieu, de toute éternité, avait le dessein du monde, il ne pouvait pas faire autrement. Non, Dieu est libre. Hein. Mais ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que ce dessein, ce désir, ce projet de monde à venir, d'une histoire humaine, oui, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'éternité de Dieu, mais qui ne s'impose pas comme une nécessité extérieure. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Comme le disait saint Irénée, c'est le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu, qu'il en soit ainsi. Mais ce bon plaisir, c'est l'amour finalement, hein, pour prendre le terme utilisé par Moltmann. Cet amour est tellement essentiel que Dieu ne peut pas faire autrement. Mais Dieu ne peut pas faire autrement que vouloir ce monde et cette humanité, non pas parce que cette nécessité s'imposerait à lui de l'extérieur, mais tout simplement parce qu'il est amour, selon l'épître de Jean, et que librement, comme amour, il désire le monde, il désire l'humanité. Alors, ce que j'ajouterais d'un mot, c'est que la préexistence, nous avons essayé de comprendre un tout petit peu mieux, préexistence ainsi comprise, retentit sur la compréhension de l'incarnation. Parce qu'une fois, qu'on a atteint ce sommet, ce point absolument vertigineux du Verbe, ce point qui était magnifiquement contemplé par Jean, quoi, le Verbe auprès de Dieu, le Verbe qui était Dieu, alors, une fois qu'on est parvenu si haut, quand il va falloir rendre compte de Jean 1,14, le Verbe devenu chair, on sera plus que jamais saisi par l'immensité de l'écart entre l'éternité de Dieu et la finitude extrême à laquelle le Verbe de Dieu a consenti. C'est pourquoi, en montant le plus haut possible, ou le plus loin possible vers l'alpha de la préexistence, nous nous préparons du même coup à faire le mouvement inverse et à penser l'incarnation comme anéantissement, comme kénose par amour. Ce sera le sujet du premier développement la prochaine fois. On essaiera de réfléchir sur l'incarnation. Le retournement du discours christologique en discours de l'incarnation, mais dès maintenant, j'annonce que on pourra, de fait, en parler en termes d'abaissement, d'humilité, de kénose. Voilà. Bon, c'était une séance un peu dense, hein, mais sur des questions particulièrement abyssales.